il existe des films générationnels. Des films qui n'arrivent pas uniquement à trouver leur public, mais aussi à dépasser les frontières de ce à quoi les lois de la logique auraient voulu les destiner. Des œuvres qui vont réussir à toucher du doigt ce qui fait que l'on marque l'histoire de l'art. Impacter les spectateurs en leur fort intérieur. Un sentiment presque inexplicable, où l'on a l'impression profonde que les créateurs s'adressent directement à nous, et à nous seuls. Mais il est difficile de faire l'unanimité. Et il n'est pas rare que certains de ces films soient mythiques pour certains, et des échecs absolus pour d'autres. Soleil sur vous, citoyennes et citoyens, bienvenue sur le Nexus 6, je suis le capitaine. Il y a de cela quelques années, 12 très exactement, en 2014 pour vous, il y a un film qui est sorti dans les salles obscures. Un film qui a malheureusement été disponible juste avant la première vidéo de Nexus 6, un film que je n'ai donc jamais abordé en vidéo, alors que je l'adore. À mon sens, il s'agit même d'un des meilleurs films de science-fiction du début du 21e siècle. C'est simple, il est aujourd'hui très rare que je sorte d'une séance de cinéma aussi satisfait que ce que ce film m'avait fait ressentir. Et ce film, c'est le remake de Robocop par José Padilla. Non, jamais de la vie. Le film est raté comme c'est pas possible. Je parle évidemment d'Interstellar par Christopher Nolan. Un film qui, s'il était très apprécié lors de sa sortie, semble subir les affres d'un contre-discours réel ces dernières années. Chose qui, à mon sens, revêt des raisons bien plus profondes que les critiques qui lui sont adressées de manière classique. On va voir tout ça ensemble. Mais avant, cette émission est en partenariat avec NordVPN. NordVPN est un outil indispensable pour votre vie numérique. Il chiffre votre connexion afin de protéger votre activité en ligne et masque votre adresse IP pour renforcer votre confidentialité. En clair, ce que vous faites sur Internet reste votre affaire. Et avec sa politique no-log, NordVPN ne conserve aucun historique de votre activité en ligne. Et puis, il y a un avantage que j'utilise tout le temps, le changement de localisation virtuelle. Quand vous êtes à l'étranger, certaines plateformes décident soudainement que vous n'êtes plus français. France TV, MyTF1 ou MyCanal, c'est désolé, revenez quand vous serez dans le bon pays. Merci les gars. Avec NordVPN, vous choisissez simplement un serveur en France et vous retrouvez l'accès à vos programmes habituels. Et c'est la même chose pour nos amis belges avec la RTBF ou RTL Play. Et évidemment, ça marche aussi dans l'autre sens. Vous pouvez vous connecter depuis les États-Unis, le Japon, l'Australie ou des dizaines d'autres pays pour découvrir des catalogues différents sur vos plateformes préférées. Mais avec l'abonnement premium de NordVPN, vous avez accès à bien plus de fonctionnalités. Il inclut également une protection web, un outil de cybersécurité intégré qui bloque les sites malveillants, les tentatives de phishing, les trackers et de nombreuses publicités invasives. Même lorsque le VPN n'est pas activé, cette protection continue de sécuriser votre navigation. Et il y a aussi NordPass, le gestionnaire de mots de passe, parce qu'on connaît tous quelqu'un qui utilise encore MDP123 sur 15 sites différents. C'est complètement débile, ne faites pas ça. NordPass peut générer des mots de passe uniques et complexes, les enregistrer de façon sécurisée et les remplir automatiquement lorsque vous vous connectez. Il peut même vous alerter si certaines de vos informations apparaissent dans une fuite de données. Autrement dit, moins de stress, moins d'oubli et beaucoup moins de mauvaises surprises. NordVPN peut être installé sur 10 appareils en simultané. Ordinateur, smartphone, tablette, Apple TV ou Android TV, un seul abonnement pour plusieurs appareils protégés. Donc soit vous sécurisez toute la famille, soit vous avez enfin une excuse crédible pour être sur votre smartphone en même temps que vous regardez cette vidéo. Cliquez sur le lien en description pour profiter d'une offre exclusive. 4 mois offerts pour un abonnement de 2 ans. Vous payez en une seule fois, mais avec l'abonnement de base, ça revient à moins de 3€ par mois. Et comme toujours, vous avez 30 jours satisfaits ou remboursés. Donc vous pouvez tester NordVPN tranquillement et voir si ça vous convient. Faites-vous plaisir. Et maintenant, on retourne à votre émission. Bon, pour les 4 personnes qui n'auraient pas vu le film, ça parle de quoi, Interstellar ? Nous sommes en 2067. Et c'est la merde. L'humanité a complètement foutu en l'air l'équilibre planétaire. Et la Terre est donc en train de nous foutre des gifles monumentales. Tempête de poussière, maladies, production de nourriture insuffisante pour nourrir la population. En bref, on récolte ce que notre espèce a semé. Et en parlant de semences, nous allons suivre Cooper, ancien pilote d'essai de la NASA, qui n'a jamais été dans l'espace, devenu agriculteur. Bah oui, parce que dans un monde à l'agonie tel que celui-là, on a plus besoin de fermiers pour essayer de nourrir tous les connards encore présents, plutôt que de gens pour faire joujou avec des vaisseaux spatiaux. C'est débattable, on voit ça après. Cooper, il est pas très heureux du monde dans lequel il vit. Sa femme est morte, son beau-père est toujours dans ses pattes, dans une relation douce-amère plutôt sympa, il vit dans une société où il est obsolète, mais en plus, dans laquelle les capacités de ses enfants ne sont pas mises en valeur comme elles le mériteraient. Surtout celle de sa fille la plus jeune, Murphy, petite génie au caractère bien trempé, qui a du mal à s'intégrer dans un monde rempli d'idiots qui éduque les enfants à l'être encore plus.
You don't believe we went to the moon?
I believe it was a brilliant piece of propaganda.
Une famille un peu en marge donc, qui vit comme elle peut dans son exploitation agricole. Un jour, Murph remarque d'étranges phénomènes dans sa chambre. Croyant à un fantôme, elle alerte son père, qui ne se laisse pas impressionner, et se rend compte qu'il s'agit en fait d'un phénomène gravitationnel qui indique des coordonnées. Cooper est un homme d'action, et l'étrangeté du phénomène ne l'empêche pas de partir immédiatement sur place avec une petite surprise. Et au bout du chemin, quoi ? L'accueil chaleureux d'un robot trop cool.
Where's my daughter ?
Don't make me take you down again.
Je kiffe les robots du film. Dans une base secrète de la NASA, dédiée à une mission qui l'est tout autant, dirigée par les professeurs Double Brand, père et fille. Qu'est-ce que c'est que ce Beans ? Interroge justement Cooper. Eh bien le Beans, c'est un trou de ver orbitant autour de Saturne et ouvrant un passage vers une autre galaxie où plusieurs planètes pourraient être habitables. Des planètes en orbite autour d'un gigantesque trou noir, Gargantua. Qui a placé ce trou de ver ? Mystère. En tout cas, ces gens veulent nous sauver de nous-mêmes. Des missions d'exploration sont déjà parties pour faire un rapport succinct et un système semble prometteur. Trois mondes qui pourraient accueillir l'humanité pour un nouveau départ. Ça, c'est le plan A. Le plan B, c'est d'y envoyer des embryons fécondés. Tout dépendra de Cooper, de Brand et des autres astronautes qui les accompagneront pour s'assurer de la viabilité des planètes et prouver qu'il faut tenter le coup. Mais aussi du Dr. Brand Senior, qui lui doit trouver la solution à une nouvelle théorie qui permettrait de contrôler la gravité et donc de faciliter le transfert de l'humanité vers les étoiles. Cooper accepte la mission, ce qui pose pas mal de problèmes, car le voyage s'annonce long, très long. Ce qui n'enchante guère Murphy.
I'm coming back.
Selon elle, le fantôme a laissé un autre message qui lui demande de rester, mais rien n'y fait. Son fils, lui, prend la chose avec beaucoup plus de philosophie.
Hey, can I use your truck where you're going?
Mais c'est tout de même le cœur lourd que Cooper part pour les étoiles avec Amelia, Romy et Doyle à bord de l'Endurance. 2 ans vers Saturne en hibernation dans un premier temps, on arrive au trou de ver, moment 2001, premier contact, et hop, nous voilà à l'autre bout de l'univers. Première étape, la planète Miller. Problème, l'astre étant très proche de Gargantua, l'influence gravitationnelle de ce dernier a un effet sur l'écoulement du temps.
Every hour we spend on that planet will be 7 years back on Earth.
Vous le savez toutes et tous, c'est l'effet de la masse sur le temps par dilatation de l'espace-temps. Plus un objet est massif, plus il aura d'effet sur celui-ci. Ou en tout cas, vous le savez depuis ce film. C'est pas fameux, mais il faut y aller pour récupérer les données de la planète. Le destin de l'humanité en dépend. Romy, lui, reste en arrière pour observer le trou noir et voir ce qu'il peut apprendre dessus et peut-être aider Brand avec son équation. On est paré ? C'est parti. Et autant dire qu'il vaut mieux aimer la flotte parce que la planète en est recouverte. Mais d'une manière assez spéciale, jusqu'aux genoux. Histoire que ce soit chiant, mais juste comme il faut, hein. À patauger comme un con, là. Oh, et aussi, des putains de vagues gigantesques! Trop tard pour Doyle, qui boit la tasse, on prend du retard, tic-tac, tic-tac, on réussit à repartir, mais on est resté beaucoup trop longtemps sur la planète. Du coup, il s'est passé...
23 years, 4 months, 8 days.
C'est la grosse déprime, surtout quand t'es obligé de rattraper tous tes mails en retard. Même si, c'est pour une très belle séquence émotion, où Cooper apprend en 5 minutes la mort de son beau-père, la naissance de son petit-fils, et la mort de son petit-fils. Une sacrée journée de merde. Murphy, qui n'avait pas donné de nouvelles jusque-là, prend finalement le temps de lui envoyer un message.
You son of a bitch.
Ce qui rajoute à l'émotion, c'est normal. On apprend à cette occasion qu'elle aide Brand sur sa formule. La solution est aussi entre ses mains. Mais pendant ce temps, dilemme. Le petit arrêt surf a utilisé trop de carburant, mais il reste 2 planètes à visiter. Il va falloir trancher. Cooper penche pour la planète Man, Brand, elle, penche pour la planète Edmunds, du nom de celui qui l'a explorée. Sauf qu'elle n'est pas impartiale.
She's in love with Wolf Edmunds. Is that true?
Yes.
S'ensuit un débat sur l'importance civilisationnelle de l'amour, mais Cooper ne se laisse pas démonter. On arrive dans un monde assez particulier. On réveille Man de son hibernation, encore une surprise. Décidément, Matt Damon a le chic pour se retrouver seul sur Man. Enfin, sur Mars, vous m'avez compris. Pendant que Man fait visiter la future maison de l'humanité, en quinconce, on apprend qu'au même moment sur Terre, Murphy découvre qu'il n'y a jamais eu de plan A. L'humanité actuelle est condamnée. Le seul vrai plan, c'est de faire pousser les embryons, car il leur manque des données quantiques venant du cœur de la singularité d'un trou noir pour pouvoir compléter la formule. On apprend aussi que les explorateurs qui sont partis il y a 10 ans, dont Man, étaient tout à fait au courant de cette impasse. Ce qui a eu des effets psychologiques certains sur notre bon Matt. Enfin Man. Vous m'avez compris. Murphy informe l'équipage de la supercherie. Perdu pour perdu, Cooper préfère rentrer. Mais Romy a la solution. Lors du voyage de retour, il pourrait envoyer le robot Tars dans Gargantua. Il récupérerait les données quantiques nécessaires, permettant à la Terre de résoudre enfin l'équation de la gravitation. Mais les mauvaises nouvelles ne venant jamais seules, Man avoue qu'il a trafiqué les données de sa planète pour qu'on vienne le sauver. En réalité, elle n'est pas habitable. Lâcheté ou désespoir, certainement un peu des deux, toujours est-il que le mec a vrillé. Il essaye de buter Cooper, il bute Doyle, il s'enfuit pour voler le vaisseau principal et rentrer. Sauf que comme il est pressé, il oublie quelques process, ce qui fout la merde. Séquence d'appontage absolument mythique, on souffle, mais en fait non. Nos deux survivants sont attirés par Gargantua. Seule solution, la troisième et dernière planète. Cooper se sacrifie en envoyant Brand avec les embryons en direction de cette dernière, puis plonge vers le trou noir avec le fidèle Tarz. Alors que l'endurance se désagrège, il s'éjecte et se retrouve dans un Tesseract, un lieu étrange où le temps est représenté par une dimension physique. Les êtres qui sont à l'origine de cette histoire lui donnent donc la possibilité de transmettre des messages dans le passé. Le fantôme, c'était donc lui. Il essaye d'abord de s'empêcher de partir, puis finalement transmet les informations du trou noir à sa fille adulte qui réussit à résoudre la formule d'antigravité. On libère Cooper de son trip dans la quatrième dimension, pas premier contact en fait, et le mec se retrouve en orbite autour de Saturne. Secouru par des humains du futur qui ont réussi à quitter la Terre, on laisse le temps à Cooper de faire ses adieux. Le mec a tenu sa promesse. Sa fille est sur le point de mourir. C'est pourquoi elle l'encourage à retourner auprès de Brand, seule sur la planète où elle enterre son ex. Cooper fait ses adieux, quitte ce monde dans lequel il est, au final, tout aussi obsolète qu'avant. Il a rempli son rôle. Brand fait pousser des petits bonshommes. Fin. Je vous l'ai dit, y a pas de suspense. J'adore Interstellar. Déjà, y a plein de raisons de l'apprécier. Qu'on aime ou pas le style de Nolan, je sais qu'il a de nombreux détracteurs, difficile de dire que ça n'a pas de la gueule. Au niveau technique, c'est irréprochable, la musique est top, il y a des scènes qui sont des vrais grands moments de cinéma, j'aime beaucoup la direction artistique des éléments technologiques futuristes, le vaisseau Endurance, les Rangers, le Lander, mais aussi les robots. Putain, eux, c'est vraiment une des grosses réussites du film, tant en termes de design que de leur personnalité. Leur nature, elle est pas gratuite, ils ont l'air un peu brinque-ballant, gauche, avec un écran qui, il aurait pu faire apparaître un visage ou un truc comme ça, mais en fait, il laisse apparaître des données informatiques qui ont presque l'air d'être un message de démarrage DOS qui aurait bugué. Bon, avec cette ref, on a perdu toute la Gen Z. Ça donne l'impression d'une vieille technologie désuète, tout en étant très en avance par rapport à ce que les spectateurs connaissaient lors de la sortie du film. Et ça représente parfaitement le monde dans lequel les personnages évoluent. Un monde à l'agonie, avec très peu d'innovation, où l'on est condamné à recycler les choses. Il y a plein de détails qui montrent ça, comme l'intérieur de l'Endurance par exemple. Aussi technologique soit-il, les surfaces ne sont pas nickel. C'est un peu abîmé, ça fait sale, ça fait récup. Comme la salle d'hibernation, avec ce carrelage de piscine municipale. Le carrelage là, c'est un type de proposition que j'avais jamais vu en science-fiction grand public. Et ça donne un vrai cachet au truc, en plus d'appuyer l'univers qu'on nous présente. J'aime l'ambiance du film, tout simplement. Alors oui, par ailleurs, il y a une grosse inspiration 2001, ce qui n'est pas négatif en réalité, surtout qu'Interstellar a suffisamment d'apports propres pour qu'on ne puisse pas crier au copier-coller. J'apprécie l'histoire du film, il est bien rythmé, perso je trouve qu'on s'emmerde jamais. Après, dès qu'on est sur des films qui se passent dans l'espace, même un plan d'une minute sans musique sur le vide du cosmos, ça me paraît génial. Donc je peux entendre que ça soit pas le cas de tout le monde. J'aime aussi les comédiens et comédiennes qui sont là, et vous connaissez mon amour inextinguible pour Matthew McConaughey. Il y a un autre aspect que j'apprécie, c'est la place de la science dans le récit du film. Alors à ce niveau-là, d'ailleurs, je trouve qu'on en avait trop fait. Alors, c'est la faute de la com autour du film, mais aussi de certains spectateurs qui ont essayé de faire d'Interstellar ce qu'il n'est pas, c'est-à-dire un film réaliste scientifiquement. Il n'y a pas de son dans l'espace, on a la représentation la plus juste d'un trou noir, il y a la relativité du temps, etc., etc. Tous ces éléments sont là, oui. Mais le film y prend énormément de liberté avec tout ça et bien d'autres aspects scientifiques. Rien que la scène des vagues géantes, elle n'est pas réaliste. Quand on a une vague, l'eau se retire dans un premier temps. Ici, ça n'est pas du tout le cas. Ces vagues sont donc physiquement impossibles, ou en tout cas, pas telles que c'est représenté ici. Du coup, comme on a appuyé sur cet aspect scientifique, bah ça a pas manqué. Ensuite, il y a plein de gens qui lui sont tombés dessus et l'ont critiqué pour toutes ces erreurs à ce sujet. Tout ça pour créer du contenu facile à base de « je montre Interstellar, un astrophysicien, un astronaute critique les manœuvres d'Interstellar » ou encore « un cultivateur nous parle du réalisme de la gestion d'une exploitation agricole dans Interstellar » et j'en passe. Sauf que, et vraiment je l'affirme, Interstellar n'a pas comme prétention d'être un film de pure hard SF complètement réaliste. Par contre, c'est un film qui utilise parfaitement une forme de vulgarisation scientifique tournée vers la narration. Avant Interstellar, très peu de gens connaissaient la relation masse-temps, ce que ça supposait un trou noir, la relativité, etc. Ce film, il a permis d'introduire ces concepts de manière hyper ludique auprès d'un public, mais très loin d'imaginer que de telles choses existaient. Et ça, c'est super cool. Alors oui, du coup, c'est pas parfait, mais c'est pas important. Il y a des libertés qui sont prises, mais c'est parce que le film prend des concepts scientifiques qui peuvent être complexes, digère la chose et en fait des idées de cinéma complètement folles. C'est ce qui fait que la scène où Cooper rattrape les vidéologues des 23 dernières années est hyper forte. Il y a tout ici. C'est pas de l'émotion gratuite. C'est une scène qui est l'aboutissement de tout le blabla scientifico-technique qu'on a eu auparavant et qui a des répercussions concrètes sur les personnages, leurs émotions et donc sur les spectateurs. pour peu que l'on s'identifie un minimum à notre héros, ce qui a priori est le cas de tout le monde, à moins d'être dénué de toute empathie, ça permet aux profanes d'appréhender, presque dans sa chair, ce que ces concepts scientifiques pourraient supposer au niveau individuel. Le théorique difficile à appréhender devient humain, il est ramené à notre niveau, cela facilite la compréhension, et je considère qu'il n'y a pas mieux que ça. C'est très fort. Non, écoutez, sincèrement, pour moi, c'est presque un sans-faute, en fait. Ce qui ne m'empêche pas tout de même de comprendre que certaines et certains lui trouvent des défauts. Des défauts qui, en réalité, sont ceux qui sont souvent adressés aux films de Christopher Nolan en général. Une exposition qu'on pourrait considérer comme un peu lourde, avec beaucoup d'explications faites par les personnages plutôt que par l'art de la mise en scène, alors même que le film finit par montrer les choses, comme s'il ne faisait pas confiance à ses spectateurs pour comprendre. Peut-être a raison, des fois, mais loin de moi l'idée d'être méprisant. Une espèce de distanciation émotionnelle, appuyée par une certaine froideur dans la mise en scène, mais aussi des personnages secondaires trop peu développés, notamment les personnages féminins. Des films souvent à fort concept, qui ont peut-être tendance à s'y perdre. Tout ça, je l'entends, c'est des analyses que je peux trouver tout à fait pertinentes, je suis pas forcément d'accord, et pour chacun de ces points, j'ai des contre-arguments et je pourrais élaborer, mais ce n'est pas ce dont je veux parler aujourd'hui. Par contre, faut pas croire, moi aussi j'ai des reproches à faire au film. Notamment un imaginaire très américain. Le baseball, les champs, les vrais travailleurs de la bonne terre bien de chez nous, les drapeaux, les fermes du Midwest, des références au grand mythe de la construction des États-Unis, même sur l'aspect spatial, la NASA, le secret d'une mission pour sauver l'humanité. Tout ça est un peu réducteur, ça manque d'ampleur quoi, comme si la vie intérieure de Christopher et Jonathan Nolan, tous deux scénaristes du film, se limitait à l'esthétique de l'Arkansas. L'intérieur de la station, à la fin, l'une des prouesses technologiques les plus incroyables dont l'humanité pourrait accoucher, est tout à fait représentatif de cela. Parce que je sais pas vous, mais perso, si le pinacle de la civilisation humaine, c'est la vie pavillonnaire à l'américaine, avec barbecue et baseball le dimanche dans un cylindre au Nil, je préfère me jeter par le sas. C'est un peu l'une des contradictions du film qui brasse des thématiques universelles, l'amour, la paternité et plein d'autres, et qui, je trouve, le fait plutôt bien, mais les présente par le prisme d'une vision paradoxalement étriquée. C'est dommage, il aurait peut-être gagné à proposer une vision de l'humanité plus variée. Même si ce choix participe aussi à l'ambiance un peu rétro du film. Là, en fait, je pense qu'Interstellar, peut-être de manière inconsciente, il s'adressait avant tout au public américain, et quand on ne l'est pas, on est obligé de faire un petit peu cet effort de se mettre à leur place, quoi. Voilà, bon. C'est comme ça. Il y a aussi des incohérences ou des facilités scénaristiques. Comme lorsque nos amis vont sur la planète Miller. Pour eux, le temps passe plus rapidement que pour Romilly, resté en orbite. Mais il faut voir ça dans l'autre sens. Le temps passe plus lentement pour lui. Et si on y réfléchit bien, de son point de vue, lorsqu'il observe la planète, il assiste à la mission de ses collègues au ralenti. Un très gros ralenti. Du coup, comme 7 ans pour lui, c'est une heure en bas, il a des jours, voire des semaines, pour constater que des méga vagues s'approchent d'eux. Et il aurait largement le temps de leur envoyer une navette avec l'un des robots, et il serait même pas pressé. Il pourrait se brosser les dents, dormir, faire une sieste, faire de la peinture, que ça irait hyper vite. À peine ils auraient atterri, qu'elle arriverait presque en même temps qu'eux. Mais ça, c'est le genre d'incohérences qui sont inévitables quand ton récit tourne autour du temps. C'est très difficile de faire quelque chose de parfait, et dès que tu creuses un peu, tu te rends compte que les œuvres qui arrivent, elles sont pas légion. Donc c'est pas un vrai défaut. Des fois, on est obligé de justement pas trop creuser, pour ne pas nous sortir nous-mêmes de notre propre suspension d'incrédulité. En plus, tout ça est fait pour la scène des vidéologues, qui, je le répète, et vraiment j'appuie là-dessus, est un grand moment. Donc l'important, il est là. Bref, mettons tout ça de côté, parce qu'au final, les points positifs que j'ai évoqués plus tôt, et pour lesquels j'aime ce film, ne sont pas les réelles raisons de mon amour pour celui-ci. Tout comme je pense que les défauts qu'on lui reproche généralement, peut-être vous-même, devant votre écran, ne sont pas les réelles raisons pour lesquelles le film n'est pas apprécié. Non. Il y a un autre aspect du film qui pour moi est son point central, et la raison conjointe de l'amour ou du désamour qu'on lui porte. Et pour aller plus loin, il faut que je me prête un exercice que je fais rarement, vous ouvrir un peu mon intimité. En tout bien tout honneur, hein, calmez-vous. Si vous voulez me voir à poil, c'est dans le film Nexus 6. Je suis le pur produit d'un imaginaire qui a été construit par le mythe de la conquête de l'espace, et d'une manière plus générale, par tous les récits d'exploration de l'histoire de l'humanité. Sputnik, Gagarine, Tereshkova, Leonov, Armstrong et le programme Apollo, les missions Venera vers Vénus, l'exploration de Mars avec Sojourner, Spirit, Opportunity et Curiosity, la mission Rosetta Philae vers la comète Churyumov-Gerasimenko, et évidemment, la mission Cassini-Huygens vers Titan. Tout ça a formé la personne que je suis. Toutes ces missions ont fait rêver le jeune garçon que j'étais, et pas uniquement, et c'est l'aspect fondamental, pour son intérêt scientifique indéniable et très important, mais aussi par sa charge émotionnelle. Parce que pour moi, toutes ces entreprises sont le symbole d'une humanité qui avance. Quelque chose qui me touche beaucoup. Faut bien comprendre que lorsque l'on est un passionné de science-fiction, comme je le suis, c'est-à-dire depuis aussi loin que je me souvienne, bah cette notion d'amélioration de l'humanité par la science, l'exploration, les découvertes, elle est complètement inscrite en moi. Et même si j'ai bien conscience que tout ça a aussi eu des effets pervers, ça a donné des choses qui sont dramatiques, ces valeurs, elles ont quand même été renforcées par des imaginaires positifs, notamment Star Trek et sa société utopique. Quand j'étais petit, j'étais persuadé que même si le chemin allait être plein de hauts et de bas et qu'il l'avait été par le passé, eh bien que sur le global, on se dirigeait quand même vers ce type de société. Et pour moi, bah ce chemin, il passait aussi par l'exploration spatiale. Alors pas seulement, hein, y a plein d'autres choses à faire pour avoir une société plus juste, qui ne relève pas de ce sujet, un autre système d'organisation sociétale que le capitalisme libéral, une réorganisation complète de nos priorités au niveau écologique, une éducation à l'empathie pour tout le monde, etc. Bref, y a plein de choses à faire. D'ailleurs, petite parenthèse, on oppose souvent écologie et les missions spatiales, et je conviens que c'est une activité polluante, pas de doute là-dessus, mais ma position, c'est de dire que l'un n'empêche pas l'autre. On peut faire du spatial tout en faisant attention à la Terre. Parce que clairement, c'est pas le spatial qui notre planète. Il y a plein d'autres choses de notre société productiviste et consommatrice qu'on devrait éliminer pour sauvegarder notre espace vital avant même de se dire que le spatial est un problème. Je vais pas vous faire la liste parce qu'on n'a pas fini. Parce que l'exploration du cosmos revêt à mes yeux un caractère primordial. Non seulement du fait des découvertes scientifiques qu'elle permet et qui peut améliorer notre civilisation, mais aussi du fait que mine de rien, si on devait réussir à nous exporter dans l'univers, eh bien ça assurerait davantage la pérennité de notre espèce. Oui, parce que notre planète, elle est de toute façon condamnée. Un jour, le soleil mourra et elle avec. Et nous aussi, donc faut y penser. Et je sais, on a le temps avant que ça arrive, mais encore une fois, pour moi, l'un n'empêche pas l'autre, et de toute façon, je vous dis même pas tout ça parce que je veux vous persuader de partager ma vision. Non, je vous dis tout ça pour que vous compreniez bien, et vous l'avez remarqué avec le tunnel que je viens de vous faire, que l'exploration de l'espace, ça fait partie de moi, et que je ne peux pas m'en défaire. Ça me fait rêver, ça m'émeut jusqu'aux larmes même. Je suis capable d'être submergé par les émotions rien qu'en voyant une fusée décoller, en revoyant les images du premier humain sur Mars, parce que quand ça arrive, ça m'évoque tout cet imaginaire d'une humanité unie qui travaille pour le bien commun. Je trouve ça beau, et je suis conditionné à ça, rien ne l'effacera. Sauf que, quand j'étais jeune, j'avais bien compris qu'on n'y était pas, que non seulement le programme spatial était grosso modo au point mort, mais qu'en plus, le début de renouveau que le secteur vivait prenait une direction privée qui ne me plaisait pas des masses. En somme, je vivais dans une réelle frustration vis-à-vis de ça, avec un vrai sentiment d'échec de la part de notre espèce. J'étais malheureux du manque d'ambition qui caractérisait nos sociétés sur le spatial et sur tout le reste, faut se l'avouer. C'est pour ça que je suis aussi fan de la série For All Mankind, une uchronie dans laquelle l'humanité n'a pas réduit ses programmes spatiaux après les missions lunaires. Résultat, des bases sur la Lune dans les années 70, on débarque sur Mars dans les années 90 et on va sur Titan dans les années 2010. Le monde dans lequel on aurait dû vivre, tout simplement. Mais non! Et je dis toujours qu'être fan de SF, c'est être persuadé toute son enfance qu'on finira par vivre dans Star Trek, et qu'au final, une fois adulte, on se réveille tous les jours dans un V pour Vendetta version Wish. Mais passons. Et Interstellar, oui, on y revient, est un film qui a été fait pour moi. Oui bon, enfin, pour toute personne qui a le même ressenti que moi sur ce sujet. Ok.
Well, we used to look up in the sky and wonder at our place in the stars. Now we just look down and worry about our place in the dirt.
Voilà, tout est dit. C'est à ce moment-là que je suis tombé amoureux du film, que j'avais le sentiment qu'il me comprenait. C'est la première fois qu'un film me disait mot pour mot ce que je ressentais depuis des années. Et à partir de là, c'était foutu. Je ne pouvais plus être objectif vis-à-vis du film. J'avais enfin l'impression de ne plus être seul face à cette vision du monde, que d'autres la partageaient. Et c'est un sentiment hyper agréable. Sauf que j'ai bien conscience que tout ce que je viens d'exposer là, il y a des gens à qui ça ne parle absolument pas. Et qui donc vont être complètement laissé sur la touche par le film. Ou à minima, ça sera beaucoup plus difficile pour eux de rentrer dedans. Il y a un événement d'Interstellar qui est le parfait symbole des réactions opposées qu'il va susciter chez le public, le fait que Cooper décide de partir. Il y a des gens qui n'acceptent pas ce présupposé, qui ne comprennent pas qu'on puisse partir pour une mission périlleuse alors qu'on a toute une famille. Même si c'est pour le bien de l'humanité, même si sans cet acte sacrificiel, la survie à long terme de sa famille n'est pas assurée. Alors que personnellement, et je pense que c'est le cas de la grande majorité des gens qui aiment le film, je comprends parfaitement cette décision. Parce que l'important ici, et c'est là où c'est intéressant, et c'est là aussi où ça me parlait particulièrement, c'est qu'en vérité la raison principale du départ, c'est peut-être pas réellement la volonté de sauver le monde, mais juste le besoin personnel, égoïste, de partir. Et a fortiori de partir dans l'espace. Le rêve de beaucoup de gens, le mien. Et Cooper se fait alors le représentant de cette envie d'évasion. Il s'est entraîné toute sa vie à ça. C'est là qu'est sa place. C'est ce pourquoi il existe. C'est quelque chose d'aussi important pour lui que de respirer. Et ce rêve lui a été retiré. Il pensait qu'il n'aurait plus jamais l'occasion de pouvoir l'accomplir. Mais là, par miracle, on lui en donne l'opportunité. Comment la refuser ? C'est si rare que la vie nous donne les moyens d'accomplir nos rêves ou nos objectifs que lorsque l'occasion elle se présente, mais mari, femme, enfant, parent, ami, ce que tu veux. Mais j'avoue que je comprends parfaitement le fait que l'on abandonne tout ça pour faire ce pourquoi on se croit destiné. Et j'ai bien conscience que c'est peut-être une illusion, que c'est peut-être même un conditionnement. Mais la réalité émotionnelle de ce sentiment, elle est là. Et je trouve que Interstellar met merveilleusement en scène ce type de ressenti. Et si le film de Nolan se concentre beaucoup sur Cooper et ce besoin qu'il a, ce qui en fait la qualité, c'est qu'il n'oublie pas non plus de traiter le sujet du rapport à l'autre vis-à-vis de ce type de décision. D'une manière générale, le film porte tout à propos sur l'amour. Comme quoi ce serait un paramètre mesurable de l'univers, peut-être aussi tangible que les lois de la physique. Une très bonne idée, que certains considèrent comme explorée trop en surface, mais personnellement, je ne suis pas d'accord avec cela. Le sujet est là, au global, dans le film, mais c'est surtout la relation entre Cooper et Murphy qui va représenter cela. Lorsque l'être cher décide de partir accomplir sa destinée, c'est triste et c'est très compliqué, mais l'autre doit comprendre que c'est inévitable. Que s'il ou elle devait rester, en fait, c'est comme si cette personne n'était pas vraiment là. Elle passerait son temps à penser à cette décision, à cette occasion manquée. Et elle ne pourrait pas s'en empêcher. Les émotions sont des choses qui s'imposent à nous, qu'on ne peut contrôler que dans un second temps. Mais ça demande beaucoup d'énergie, et ça n'est pas quelque chose de viable sur le long terme. Il faut régler la chose. Il y a une autre œuvre qui représente très bien ce besoin de partir, le jeu vidéo The Last of Us 2. Attention, gros spoiler. Lorsque dans le dernier quart du jeu, on suit Ellie dans sa petite vie de famille, alors qu'elle n'a pas réussi à venger Joel, elle fait semblant pendant un temps. Elle réussit même à refuser la nouvelle proposition qui lui est faite d'accomplir sa mission. Mais cela ne dure pas. C'est plus fort qu'elle. Elle doit partir. Tant qu'elle n'aura pas été au bout, elle ne sera jamais réellement là. Elle ne sera jamais réellement elle-même. Maintenant, qu'est-ce que c'est que d'accomplir sa mission personnelle ? C'est quoi d'aller au bout des choses ? C'est là qu'il y aura toujours débat. En tout cas, Interstellar réserve un dénouement particulier à ce déchirement qu'a été la séparation de Cooper et Murphy. Parce que même si la décision de partir du personnage principal est aussi prise pour des raisons égoïstes, il n'en reste pas moins que ce départ n'est pas un soulagement pour lui. Il aime sa fille et sa famille. C'est une souffrance. La douleur de l'éloignement, évidemment, mais aussi la douleur de ne pas être compris dans sa décision et le poids de la culpabilité. Une culpabilité qui habitera le personnage tout au long de son périple. Pourtant, lorsqu'il retrouve Murphy des dizaines d'années plus tard, celle-ci lui offrira un cadeau inattendu. La rédemption. Elle l'a compris, enfin. Et être compris par les personnes que l'on aime, il n'y a rien de plus important. Des fois, aimer, c'est laisser partir.
Yuka.
Merci pour votre écoute, citoyennes et citoyens. J'espère que vous avez apprécié cette émission et que si vous n'aimez pas Interstellar, j'aurai au moins réussi à vous faire entendre un des aspects qui touche certainement celles et ceux qui l'apprécient. N'oubliez pas que la campagne de notre jeu vidéo Nexus 6 Get Funky Deliver Die est toujours en cours, c'est bientôt la fin, donc si ça vous intéresse, foncez et merci pour votre soutien. Mais aussi, et ça prend 5 minutes, si vous pouviez mettre le jeu dans votre wishlist Steam, ça serait super sympa de votre part, c'est hyper important pour nous. Si vous l'avez manqué, foncez voir la dernière vidéo de la chaîne, un comparatif entre le Dune de David Lynch et le Dune de Denis Villeneuve. Suivez Nexus 6 et Slexno sur Twitch en masse, abonnez-vous, partagez et boostez cette vidéo. Soleil sur vous, et à très bientôt sur Nexus 6. Ciao.